Bonjour à tous et bienvenue dans HebdoCom, votre rendez-vous pub Mediacom sur BFM Business. Chaque semaine, on décrypte ensemble toute l'actualité et les évolutions de nos meilleurs acteurs du monde de l'info, de la diffusion, des réseaux sociaux, de la télé, de la radio. Voilà, HebdoCom saison 2, épisode 24, c'est parti.
BFM Business et CB News présentent HebdoCom, Rebecca Blanc-Lelouch.
Entre l'acquisition des droits de diffusion de la Coupe du Monde 2026 et 2030, la succession annoncée de Nicolas Taverneau et la nouvelle plateforme M6+, M6 a le vent en poupe et on en parle aujourd'hui avec son directeur de la stratégie streaming, Henri de Fontaine. Simon Tenenbaum passera ensuite en revue pour nous toutes les news d'HebdoCom comme d'habitude. Et pour terminer, en cette journée internationale du droit des femmes, quels en sont les leviers de communication qui sont à disposition et trouvez-vous qu'il y a trop de médias féministes? C'est la question du jour, la réponse dans un instant, mais d'abord j'accueille mon invité. Bonjour Henri de Fontaine.
Bonjour Rebecca.
Merci d'être là aujourd'hui. Alors vous êtes directeur stratégie streaming chez M6. Beaucoup de choses cette semaine. Hein. Vous avez présenté les contours de votre nouvelle plateforme M6+. On a aussi appris par nos confrères de RMC que vous avez récupéré les droits de diffusion de la Coupe du Monde 2026 et 2030. Mais d'abord, un rapide mot sur l'annonce du départ qui approche de Nicolas Taverneau. Racontez-nous, c'est quoi l'ambiance en interne et à quel point est-ce qu'il va vous manquer ?
Il va beaucoup nous manquer, évidemment. 37 ans, c'est assez extraordinaire. L'ambiance, elle est bonne, parce qu'il y a tous ces projets dont on va parler ensemble qui sont honnêtement très, très enthousiasmants. Et Nicolas, je crois, avait à cœur de quitter la maison en laissant beaucoup de projets assez avancés devant lui pour pas qu'on s'ennuie. Donc la transition va se faire assez bien, je pense.
Vous sentez qu'il arrive à confier le bébé ou qu'il a encore un peu de mal
Ah, il est patron jusqu'au dernier jour, ça c'est sûr. Et puis à l'inverse, ça sera David Laramendi ensuite. Donc bonne façon de procéder. Mais là, comme on se connaît tous et qu'on travaille tous ensemble depuis longtemps, il y a évidemment déjà beaucoup de choses qui se sont transmises.
Donc David Laramendi, qui était patron de la régie pub d'M6, il prend les rênes à la mi-avril oui. À peu près. Est-ce qu'il va y avoir un changement fondamental avec lui à la tête d'M6? Qu'est-ce qui peut changer?
Il faudrait lui poser la question à lui, mais je ne pense pas. Je le connais bien, évidemment. Y a un changement de génération, mais l'impulsion et puis surtout l'ADN d'M6 va rester le même parce que je crois qu'il est... Il est bon, donc on va peut-être amplifier certaines choses qui sont très très largement lancées. Et M6+, c'est ce qui est déjà devant nous et qui est très très digital. Clairement, nos actionnaires, c'est eux qui ont décidé qui allait succéder à Nicolas, ont fait le choix de nommer quelqu'un venant de l'interne. Donc c'était une volonté certainement de transition et pas de rupture, parce que le groupe M6 marche extrêmement bien.
Puis vous le connaissez bien, parce que vous aussi, ça fait très longtemps que vous êtes dans le groupe.
Oui, absolument.
Alors, donc l'intégralité des droits de diffusion pour la Coupe du Monde 2026-2030, vous avez gagné l'appel d'offres. Racontez-nous, est-ce que vous souhaitez garder tous les matchs? Est-ce que vous comptez faire équipe avec TF1 comme vous l'avez fait en 2008?
Alors, pour l'instant, on est très heureux d'annoncer effectivement qu'on a remporté l'exclusivité en clair de la Coupe du Monde. En pratique, ça veut dire que chaque compétition a 104 matchs. Maintenant, il y a un nombre plus important de matchs. Et le distributeur en clair que nous sommes pourra diffuser 54 matchs de chacune de ces deux éditions.
Les meilleures affiches, exactement.
On choisira les affiches qu'on veut diffuser. Évidemment, l'équipe de France et puis tous les autres beaux matchs. Écoutez, on part pour les diffuser a priori tout seul. Maintenant, si d'autres acteurs aimeraient co-diffuser, évidemment, ils sont libres d'essayer de nous joindre. On verra.
Ça n'a pas encore été le cas.
Ça n'a pas été le cas. On vient de remporter cet appel d'offres. On a effectivement co-diffusé un certain nombre de compétitions jusqu'à présent. Puis on va co-diffuser l'Euro avec nos confrères de la Une. Donc c'est un schéma qui nous va bien, mais on est aussi diffuseur exclusif de la finale de la Champions League des trois prochaines années. On diffuse ce soir Marseille-Villarreal, un gros choc. Donc on... On est très très heureux de ça et quoi qu'il arrive, c'est évidemment quelque chose de porteur de plaisir et de croissance pour nous.
Et c'est aussi un énorme investissement, on le sait, vous communiquez pas sur les chiffres, mais en général, c'est quand même assez rare d'amortir les droits de diffusion d'une Coupe du Monde. Vous allez faire des concessions sur d'autres choses chez M6 de programmes phares ou...
Non, on va pas se mettre à supprimer d'autres programmes qui marchent bien en contrepartie. C'est un investissement bien sûr assez important, mais on attend des audiences exceptionnelles. La Coupe du Monde de foot, c'est ce qui fait le plus d'audiences, qui rassemble le plus de monde devant la télé en direct. Ça baisse absolument pas, voire même ça monte, avec une équipe de France qui a un niveau absolument excellent. Donc, les recettes publicitaires devraient être très élevées. Ça va être aussi un produit, j'imagine qu'on en parlera tous les deux après, qu'on va mettre sur notre plateforme M6+, donc ça attirera du monde, ça la fera connaître. C'est un investissement assez stratégique, ça nous garantit les plus grandes audiences de l'année, ça nous aide vis-à-vis de notre relation avec nos partenaires distributeurs. Donc, il y a beaucoup de facettes.
En termes d'image.
Exactement, en termes d'image, c'est
donc
très
essentiellement
important.
Essentiellement financé par la pub.
Oui. Essentiellement financé par la pub, absolument. C'est un produit gratuit. On le proposera à tout le monde, mais pour ça, il faut un financement publicitaire.
Donc, M6+, votre nouvelle plateforme, pourquoi que maintenant ?
Que maintenant ? Bah, on a démarré en 2008.
Avec 6play ?
Avec M6 Replay, même à l'époque.
Replay.
Je crois que 6play, c'est 2013. Non, je dis on a démarré en 2008 parce qu'on propose des programmes à la demande depuis 2008. Donc, ça fait 15 ans, un peu plus que ça. Et c'est une prolongation, une amplification, une accélération, mais c'est pas comme si on démarrait aujourd'hui, c'est pas une rupture.
Vous étiez déjà présent sur le streaming.
Ah, on était très très présent.
Donc vous en avez annoncé les contours cette semaine, vous investissez 40 millions d'euros cette année pour atteindre les 100 millions d'euros en 2028. Mm-hmm. Vous lancez mi-mai la plateforme.
C'est ça.
Et vous espérez 200 millions d'euros de revenus publicitaires juste avec M6+.
Alors 200 millions de revenus streaming, ça inclut de la publicité et puis un peu de revenus d'abonnement par notre option payante, absolument.
Pour pouvoir regarder et consommer sans publicité.
C'est ça.
Mais vous comptez pas là-dessus.
C'est minoritaire. Par très clairement, les revenus publicitaires sont majoritaires, oui.
Donc le modèle est gratuit avec pub. On pourra donc voir les matchs des deux Coupes du Monde 2026-2030 sur M6+.
Absolument.
En direct, en replay.
En direct, en replay, bien sûr.
Donc, vous avez proposé 30 000 heures de contenu par an, dont 10 000 heures de contenu exclusif. Quels seront ces contenus exclusifs qu'il n'y a pas sur 6play aujourd'hui ?
Alors, ils sont de plusieurs types. Il y a des contenus très forts, qui sont des contenus dérivés un peu de nos antennes, mais qu'on ne retrouvera que sur M6+. Je vous donne un exemple. Il y aura dès cette année une édition spéciale des Traîtres, gros carton de ces deux dernières années sur M6. Qui ne sera accessible que sur M6+, ça sera en plus de l'édition sur M6. Donc là, on s'inspire très clairement d'un programme télé, mais on ne le retrouve que sur la plateforme.
Pourquoi ? Parce qu'elle a vocation à être beaucoup plus consommée en replay, donc vous partez de ce constat-là et vous vous dites, on ne le met plus sur la plateforme.
Elle est énormément consommée en replay, puis on va peut-être, en fait, cette déclinaison visera peut-être un public légèrement plus jeune que celui sur M6. Après, aujourd'hui, les téléspectateurs que vous êtes et que je suis ont honnêtement une navigation assez fluide. On n'est pas monocanal. On va une fois regarder en linéaire quelque chose. On l'a raté, on va le rattraper sur sa plateforme. On va consommer une fiction uniquement en VOD, etc. On change. Donc, on cherche à évidemment
jouer
sur tous les tableaux.
On a des rendez-vous linéaires comme le foot, évidemment.
Absolument.
Quelle seront la durée de la disponibilité de ces contenus sur la plateforme ? Est-ce qu'on pourra les consommer, je ne sais pas, pendant 2 mois, 6 mois, 1 an ? Est-ce que vous avez réussi à amplifier un peu
C'est un point très important. Pour étoffer ce catalogue et atteindre les 30 000 heures dont vous parliez, il faut étendre les droits, avoir plus de contenus en même temps. Donc oui, on va en moyenne, on a évalué que nos contenus seraient disponibles en moyenne durant 12 mois. Ça, c'est une moyenne. Et en pratique, aucun contenu sera disponible moins de 30 jours. Vous savez, avant la catch-up, c'était uniquement dans la semaine qui suivait. Maintenant, on arrive à avoir tous nos contenus pendant minimum 1 mois disponibles. Donc oui, il y aura une grosse extension de la durée des droits.
Sur la distribution, cette fois, de M6+, on pourra retrouver les plateformes sur les box et sur des agrégateurs, je pense à Molotov, par exemple.
Alors, Non, enfin pas sur les agrégateurs, mais sur les téléconnectés. C'est la, disons, c'est la nouveauté à partir de mai. On va continuer à consommer nos contenus là où nous sommes, c'est-à-dire les quatre opérateurs télécom fournisseurs d'accès Internet, Canal+ de l'autre côté, qui nous distribuent assez largement. Et puis, avant, nous n'étions pas disponibles directement sur l'interface de la téléconnectée, en tout cas pas disponibles de façon gratuite. Demain, nous le serons. Donc, vous aurez le choix de vous regarder nos contenus soit dans l'interface de l'opérateur, soit directement sur la homepage du fabricant de télé ou sur Android TV et d'aller chercher notre appli et de consommer nos contenus.
Et pas sur des agrégateurs. Donc aujourd'hui, on sait que les contenus M6 sont disponibles sur les agrégateurs, sur Motov, sur MyCanal. Demain, les contenus M6 Plus ne seront plus dispo sur les agrégateurs ?
Alors pardon, j'ai peut-être pas été assez précis. Ils seront toujours disponibles, mais ce qu'on appelle derrière un paywall, c'est-à-dire il faut s'abonner à Molotov, il faut s'abonner à MyCanal pour nous accéder à nos contenus. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. En revanche, nous serons accessibles gratuitement sur les Smart TV via l'appli M6+. C'est ça la nouveauté.
Parmi les innovations intéressantes d'autres plateformes gratuites, pour ne pas les citer, un mode de partage de recettes publicitaires avec les opérateurs télécom en échange d'une exposition sur les box. Comment est-ce que vous allez procéder pour M6+ ?
Alors, on a effectivement rediscuté de nos contrats de distribution à l'occasion du lancement de M6+. Et ce qu'on a cherché à faire, c'était à incentiver, c'est un mot pas très joli, donc à motiver, disons, nos partenaires distributeurs à mieux exposer notre plateforme, mieux exposer nos contenus, nous garantir de la visibilité. Parce que vous savez, maintenant, il y a cette bataille pour être visible sur l'écran de télé. Vous avez tellement de contenus, tellement d'applis qu'il s'agit d'être visible. Donc, on a discuté avec nos partenaires historiques pour qu'ils y voient leur intérêt. Et y voir leur intérêt, c'est parfois accepter de partager certains revenus. Et il y a un mode de partage de revenus qui fonctionne bien, qui est la télévision segmentée, la publicité segmentée. C'est le fait sur votre pub traditionnelle de changer un écran. Publicité adressée, et un autre, absolument un autre mot. Façon de donner une publicité ciblée à l'intérieur d'un programme linéaire. Pour ça, on a besoin des données des opérateurs et donc on a des systèmes de partage avec eux. Ça fonctionne bien et c'est un peu le sens de l'histoire, effectivement.
Et dans votre communiqué, vous précisez des ciblages data toujours plus précis, une optimisation de la qualité de l'exposition publicitaire. J'imagine que c'est
exactement ça
dont vous parlez.
Par exemple, un point de discussion important qu'on a eu avec nos partenaires distributeurs disposent des données de leurs abonnés. D'accord. Et nous-mêmes, nous disposons des données de toutes les personnes qui sont aujourd'hui connectées à 6play, demain qui seront connectées à M6+. Ce que l'on a travaillé ensemble, c'était comment partager ces données pour que nous puissions avoir un profil enrichi de nos téléspectateurs, bien sûr, sous réserve de l'accord de ces 10 utilisateurs, mais qu'on puisse croiser nos données pour proposer des programmes toujours plus affines avec les gens qui nous regardent.
Le streaming ne représente que 5,5% de la consommation des programmes du groupe aujourd'hui et 7,5% des recettes publicitaires. Quels sont vos objectifs ?
Alors, nos objectifs, c'est de faire croître fortement donc, l'audience. Aujourd'hui, on fait un peu plus de 500 millions d'heures l'année dernière. C'est ça, on compte en millions d'heures, 500 millions d'heures. On veut porter ce chiffre à plus d'un milliard d'heures consommées en 2028. Ça veut dire doubler tout simplement la consommation. On espère même faire plus. Les deux premiers mois de l'année sur 6play, on veut une croissance des audiences de plus de 40%. Donc c'est, ça veut dire qu'il y a...
Comment est-ce que vous expliquez ça ?
Des bons programmes. D'abord des bons programmes. Clairement, les programmes attirent. Nos programmes fonctionnent bien. Et puis il y a évidemment un phénomène de transition assez fort actuellement et qui s'amplifie. Cette habitude d'aller consommer les contenus, même les contenus d'antenne de groupes de chaînes comme les nôtres.
Les usages évoluent.
Quand on veut. Exactement. Les usages évoluent assez fortement actuellement.
Merci beaucoup Henri de Fontaine d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous êtes directeur stratégie streaming chez M6. Dernière question, si on est abonné aujourd'hui à 6play, demain, quand M6 Plus se lance, on sera automatiquement...
Absolument.
Donc on n'aura même pas besoin de créer un nouveau compte.
Ça sera comme quand vous actualisez votre appli. Vous savez, tous les trois mois, on vous demande de télécharger la nouvelle release.
Mise à jour,
mais vous retrouverez vos données, vous n'aurez rien à faire de plus.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci,
tout de suite,
Rebecca.
C'est les news de Simon Tenenbaum.
Hebdo.com sur BFM Business.
Le match Instagram-TikTok qui tourne à l'avantage du groupe de Mark Zuckerberg. Selon des données du spécialiste Amplify, les contenus de marque ont nettement mieux performé ces derniers mois sur Instagram, tandis que l'engagement a eu tendance à baisser sur TikTok. 325 000 marques ont été analysées au quatrième trimestre 2023 dans cette étude. Et il en ressort en moyenne entre 8 000 et 10 000 vues organiques pour les Reels d'Instagram, contre autour de 4 000 pour les vidéos TikTok. La tendance est aussi intéressante, une hausse de 9% de l'engagement sur Instagram et au contraire une baisse de 39% de cet indicateur sur TikTok entre le quatrième trimestre de l'an dernier et le début de l'année 2022. En ce qui concerne les posts payés, Amplify note des niveaux records de dépenses publicitaires sur ce trimestre, tant sur Instagram que sur Facebook. TikTok qui reste décidément sous pression aux États-Unis cette fois, avec une nouvelle proposition de loi qui a été déposée cette semaine au Congrès pour tenter de faire interdire l'application détenue par le chinois ByteDance. Une proposition de loi bipartisane qui veut interdire à des actionnaires de puissances adversaires telles que la Chine de détenir plus de 20% d'une plateforme numérique utilisée aux États-Unis. Les marques s'emparent de l'Apple Vision Pro avec les premières campagnes, les premiers contenus de marques taillés pour le casque de réalité mixte d'Apple. Diageo, le géant des spiritueux, dévoile ainsi une application de réalité virtuelle pour sa marque de tequila Don Julio sous la forme d'une visite immersive au Mexique où l'on peut explorer les étapes du processus de fabrication de la boisson. Diageo affirme être la première marque de boisson à tester l'Apple Vision Pro dans sa communication. Les barres chocolatées Snickers ou l'enseigne de bricolage américaine Loves ont aussi expérimenté avec des premières campagnes pour le casque d'Apple.
En cette journée internationale du droit des femmes, dans notre focus aujourd'hui, on va parler des leviers de communication que l'on a à disposition, les médias principalement, mais aussi les plateformes, les magazines, les réseaux sociaux et aussi beaucoup les podcasts. Et on a donc voulu prendre un peu le contre-pied et vous demander si vous trouvez qu'il y a trop de médias féministes. Réponse non à 57%. Pour en parler, mes invités aujourd'hui, Corinne Goldberger, bonjour.
Bonjour Rebecca.
Merci d'être là. Tu es journaliste et auteur du podcast Argent, parlons cash, les filles. Et Valran Mouliberto, bonjour.
Bonjour Rebecca.
Comme on le sait, tu es fondateur du groupe média Le Crayon. Donc non à 57%. La majorité estime donc que ce sont des sujets inépuisables. Comment est-ce qu'on explique ce résultat et comment aussi on explique le 44% qui est 43% qui estime que trop, bah c'est trop. Corinne.
Alors, je peux déjà expliquer pourquoi je pense que les personnes qui ont répondu au sondage pensent que non, il n'y a pas trop de médias féministes. D'abord, les médias en ligne, des médias qui se déclinent sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, en podcast, en newsletter, en vidéo. Donc tous ces médias permettent d'exprimer, de montrer toutes les nuances finalement du féminisme. Parce que, et en plus, il n'y a pas un féminisme, il y a des féminismes. Je dirais presque qu'il y a 50 nuances de féminisme. Si on prend par exemple le féminisme intersectionnel, les féminismes les plus radicaux, le féminisme universaliste et toutes les nuances qu'il y a entre toutes ces sortes de féminismes, ce sont des féminismes et donc ils se déclinent eux-mêmes en d'innombrables thématiques. Il y a par exemple des médias éclatés consacrés aux femmes de plus de 50 ans, à la ménopause, à la sexualité, aux violences contre les femmes, au travail des femmes, aux règles, aux sportives, aux entrepreneuses, à l'argent des femmes, mathématiques, et même dans le domaine de l'argent des femmes, on n'en parle pas toutes de la même manière, chacune avec son style, son ton, et on n'aborde pas forcément les mêmes problématiques. Il y a par exemple des podcasteuses qui vont parler de l'argent dans le couple, il y en a qui vont être
produits. Donc vous pensez que c'est toutes ces formes de féminisme-là qui expliquent cette réponse ?
C'est aussi la diversité des outils qui permet d'exprimer justement la diversité des thématiques et la diversité des regards féministes.
Valran ?
Moi, je pense qu'on peut prendre la question par deux aspects. La première chose qu'on peut voir, c'est la question du féminisme comme une forme, on va dire, de terme pour dire en gros l'idéologie féministe, mais qui en fait s'adresse surtout à un type de féminisme très revendicateur. Et là-dessus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de médias qui son cousin ou en tout cas se ressemble. On ne va pas les citer, mais on sait tous auxquels on pense. Et ça, pour le coup, il faut reconnaître qu'il y a certaines vidéos où, en changeant juste le logo, on pourrait se retrouver d'un média à l'autre avec un contenu extrêmement similaire. C'est des médias souvent pure player sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de réseaux sociaux.
Et donc eux, ça explique plutôt le nom.
Exactement, ça explique plutôt le nom et ça explique plutôt pourquoi certaines personnes qui en tout cas ne sont pas très friandes de ces médias-là ont l'impression d'en voir beaucoup différents parce qu'ils ont l'impression de voir un contenu similaire sur différents médias et différentes marques.
Toujours le même discours en fait.
Exactement. Mmh. En revanche, et c'est là que je te rejoins complètement Corinne, c'est que le mais, et ce qui, à mon avis, fait que, il y a le oui de, évidemment qu'il n'y a pas assez de médias féministes, c'est parce que il y a des thématiques qui sortent complètement de ce côté, on va dire, militantisme, droit des femmes, mais sur les questions de les femmes et l'argent, voilà. Les femmes et la maternité, les femmes et la vieillesse, les femmes et la beauté, les femmes et le sport. Et en fait, je pense que...
Les femmes et leur ménopause.
j'aurais pas osé en parler, mais voilà.
Et, merci, Corinne.
Et c'est ça, en fait, je pense qu'on sous-estime, et je pense même que dans ces thématiques-là, il n'y a même pas assez de médias, pour le coup, vraiment à destination des femmes. Parce que
ce collection... Il y en a, ça vient
de plus en plus, c'est très cool.
Mais on est sur Instagram.
ce dont on peut se rendre compte, à mon avis, en tout cas avec cette analyse-là, c'est de se dire qu'en fait, beaucoup de, en tout cas d'hommes ou de mecs qui lancent des médias vont avoir parfois peut-être l'impression de faire des médias universels, mais qui sont en fait des médias qui, sans s'en rendre compte, s'adressent particulièrement aux hommes, là où du coup les femmes vont plutôt afficher dès le début que le média est à destination des femmes.
Mmh, et je pense
que c'est
tout de suite.
Exactement, et je pense que c'est ça aussi qui fait que certains hommes peuvent répondre potentiellement non, parce que ils s'interrogent sur justement quelle est leur proportion, est-ce qu'il y a des médias que pour les hommes, et en fait c'est peut-être qu'il y a des médias qui se vendent pour tout le monde, mais qui sont en fait très à destination des hommes.
Et alors que raconte, si on revient à notre sujet à la base, des médias féministes, que raconte la multiplication depuis toutes ces années de tous ces projets, de tous ces médias sociaux, de tous ces podcasts surtout, ça a été un vrai levier pour l'industrie du podcast, mais qu'est-ce que ça raconte à votre avis?
Moi je pense que ça raconte beaucoup que c'est des sujets qui ont été sous-traités pendant très très longtemps et qui ont rarement, sauf depuis on va dire 5, 10, 15 ans, sont traités enfin massivement d'un angle vraiment très à destination des femmes. Et du coup qui sort du côté universel ou parfois faussement universel de d'autres marques médias. Mais je vais prendre un autre exemple qui concerne plutôt des entrepreneuses et je le vois parce que nous on en accompagne énormément avec mon agence de relations presse, mais il y a aussi beaucoup de business qui sont vraiment créés par des femmes à destination des femmes et dont le marketing est beaucoup plus puissant que leurs homologues masculins ou même d'autres femmes mais qui s'adressent à tout le monde et pas spécifiquement à la cible féminine. Je pense qu'il y a un mécanisme de sororité qui est aujourd'hui hyper puissant dans le marketing de ces entrepreneuses-là ou des marques médias, et que je pense que cette sororité en fait est aussi un levier de communication qui est très puissant parce que ça crée en fait un engouement, un esprit de communauté, et ça permet selon moi de vraiment pouvoir créer des marques ou des entreprises fortes autour de ce pilier de on s'adresse aux femmes, et les femmes étant 50% de la population, c'est un énorme marché. Donc en fait c'est comme si on se refusait, entre guillemets, en ne parlant pas aux hommes, qu'à 50% du marché. Mmh. Donc ça reste un pari économique qui peut être très très intéressant versus quand on va essayer de s'adresser à des cibles marketing plus petites où là pour le coup on peut avoir une taille de marché trop petite pour se développer.
Alors moi je prendrais pour illustrer tout ça, enfin pour illustrer ta question, un exemple que je connais bien, donc l'argent des femmes, leur argent. La presse, jusqu'à une date toute récente, la presse féminine mainstream ne parlait jamais de l'argent des femmes. Ou, quand elles en parlaient, c'était uniquement sous le prisme des inégalités salariales. Donc, tous les ans, il y avait un papier sur les inégalités salariales, l'equal pay day, etc. Et ça dit quoi, ça? Ça dit que l'image de la femme active qui est donnée par la presse féminine mainstream, c'est une femme qui est, un, salariée, et deux, souvent dans un grand groupe, comme si toutes les femmes de ce pays étaient des salariées et avaient un salaire. Non, il y a des femmes qui sont agricultrices, on l'a vu encore tout récemment, hein. Y a des femmes qui sont commerçantes, artisanes, profession libérale, y a énormément
entrepreneuses dans la technologie.
D'entreprises, il y a beaucoup de freelance, beaucoup d'auto-entrepreneuses.
Et on le voit aussi. Dans le monde associatif aussi.
Voilà, dans le monde associatif, comment elles sont payées. Donc, toutes ces femmes, elles passent sous les radars. Donc moi, pendant des années, c'est ce qui m'a d'ailleurs amené à créer mon podcast « Argent, parlons, cache les filles ». Je me suis dit, mais comment ça se fait que la femme active, c'est uniquement une femme salariée qui souffre d'inégalités salariales, qui se répercute sur sa retraite,
etc. Et vous sentez que ça change ?
Oui, je trouve que ça commence à changer.
Où est-ce que vous avez identifié ces signaux-là ?
Eh ben, il me semble que la presse féminine commence un petit peu, par exemple, à parler, ne serait-ce que des podcasts qui existent, des comptes qui existent, enfin des comptes Instagram qui existent. Timidement, elle commence à en parler.
Donc c'est peut-être
elle
là finalement.
Elle peut pas rester à la traîne 107 ans, c'est ça que je veux dire.
Donc c'est peut-être là finalement que les médias féministes servent la cause, j'ai envie de dire.
Les personnes qui créeront des entreprises ou des médias sur ces cibles-là seront très prospères, et donc du coup ça enverra un signal global au marché que c'est un marché sur lequel il faut aller se développer. C'est le principe même d'ailleurs de la manière dont se compose, on va dire, une forme d'économie capitaliste libérale, c'est-à-dire en fait on sent qu'il y a un gros besoin, et vous le dites encore plus clairement que moi. Et en fait, ce besoin-là, il est mal résolu. Et plus il sera bien résolu, plus les gens gagneront de l'argent ou de l'audience grâce à ça, plus ça donnera envie à d'autres femmes d'aller justement sur ce terrain-là pour aller compléter cette offre.
Oui, par exemple, tout à l'heure, j'ai cité la ménopause, bon, les femmes de plus de 50 ans. En fait, c'est un énorme marché. Et avec le vieillissement de la population, c'est un énorme marché. En plus, les femmes vont devoir travailler maintenant minimum jusqu'à 64 ans. Et elles passent totalement sous les radars. Ça n'intéresse pas la presse féminine mainstream, alors qu'en plus c'est des femmes qui par définition sont souvent mieux payées à 50 ans qu'à 20 ou 25. Ouais. Elles achètent par exemple des crèmes nourrissantes,
la cible,
etc.
En fait.
Il y a une cible commerciale,
oui,
il y a des annonceurs qui vont être intéressés. Mm-hmm. Ben non, ça n'intéresse pas la presse féminine mainstream. C'est quand même incroyable.
Bon, bah pour conclure, mais j'ai l'impression que c'est quand même souvent qu'on dit ça, on peut dire qu'il y a du progrès mais
oui.
qu'il reste du chemin à faire.
Oui, il reste du chemin à faire.
Merci beaucoup Corinne Goldberger, je le rappelle, vous êtes journaliste et auteur du podcast Argent Parlons Cash les filles, et Valérie Moulet-Berthaud, fondateur du groupe média Le Crayon. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais aussi partout en replay, podcast, sur toutes les plateformes. Et comme chaque semaine, on termine avec notre campagne chouchou qu'on a choisie avec CBNews. Et cette semaine, c'est sur le mois de la mobilisation contre le cancer colorectal qui dédramatise sur ce sujet essentiel. Une campagne signée Australigade. Très bon week-end sur BFM Business.
Attendez.
Faut que j'aille faire mon dépistage du cancer colorectal.
Mais j'en ai pas pour longtemps. Hein. Voilà, je me dépêche. Allez.
Vous n'êtes pas obligé de faire votre dépistage le jour de votre anniversaire. Mais dès 50 ans, faites-le tous les deux ans chez vous avant tout symptôme. C'est le meilleur moyen de s'assurer qu'il n'y a rien ou de traiter un cancer colorectal précoce.
Eh ben moi, c'est dans deux semaines.